Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Chers amis et auditeurs de Radio Présence, nous avons quasiment achevé notre long commentaire du chapitre 24e du premier livre de Samuel sur la nécromancienne d'Endor. Et donc nous voyons un petit peu le danger que représentent toutes ces formes de recours à l'occulte. Et à propos de ces diverses pratiques que nous avons évoquées, divination, astrologie, évocation des morts, et le spiritisme, etc., on nous pose la question suivante, est-ce que vous y croyez ? Tel est bien le problème. En effet, nous avons remarqué que la chiromancie, devenir l'avenir avec les mains ou la paume des mains, et l'astrologie avaient des fondements objectifs respectables à leur plan, mais qu'il fallait se garder d'accorder une confiance trop grande aux lignes de la main ou aux rencontres astrales, par exemple. Il ne faut pas croire à tout cela. Il ne faut croire qu'en Dieu. Seul Dieu a droit à notre adhésion de foi. On ne se donne pas aux astres, ni aux esprits, ni aux cartes, mais à Dieu seul. Donc on n'a pas à y croire, surtout pas à y croire. Mais on peut penser que l'une ou l'autre de ces observations peut avoir un contenu objectif, mais c'est tout. Et la faute dernière de Saül fut de ne pas mettre sa foi entière en son Dieu, ce qui fut le motif de son rejet par le Seigneur. La consultation d'Endor, nous revenons à notre texte, n'aboutit qu'à sa prostration sous l'annonce de la défaite prochaine d'Israël et de sa propre mort. En effet, Samuel évoqué par la nécromancienne donc arrive, approche et annonce à Saül que l'armée d'Israël va être défaite et que lui va mourir avec son fils Jonathan. Et pendant ce temps, David et ses partisans, protégés par le roi de Gath, qui est un philistin, qu'ils appellent Achish, font mine de s'enrôler avec les troupes qui vont faire la guerre à Israël. À juste titre, les princes des philistins se méfient de ces transfuges et ne veulent pas qu'ils les accompagnent au combat. On les comprend. Achish, donc ce prince vient porter sa décision à David, ce qui lui donne l'occasion de montrer l'estime qu'il a pour son hôte. Nous sommes au chapitre 29e du premier livre de Samuel. Aussi vrai que le Seigneur est vivant, tu es loyal, et il me plairait que tu sortes et rentres avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis le jour que tu es venu chez moi jusqu'à maintenant. C'est vrai, quelle formule extraordinaire, c'est vrai que tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu. Seulement, les princes des Philistins ont dit, il ne faut pas qu'il aille au combat avec nous. Notons au passage la beauté du compliment, tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu. Nous savons déjà que David, le bien-aimé du Seigneur, est un homme plein de charme. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure, avait écrit le rédacteur au moment de son onction royale, le premier chapitre de Samuel, au chapitre 16. Nous avons vu aussi comment il s'est attaché l'âme de Jonathan. Et ici, Achish déclare que la séduction de David s'apparente à l'attirance mêlée de crainte qu'exerce Dieu lui-même. L'ange de Dieu, dans les hautes couches de l'Ancien Testament, désigne en effet Dieu en tant qu'il se manifeste aux hommes. Tu m'es aussi agréable qu'un ange de Dieu. La foi entière de David envers son Dieu l'amène peu à peu à lui ressembler. Ce n'est pas du faux semblant. Après qu'il a été jugé indésirable dans la bataille, David revient avec les siens à Siclag, la ville que lui a donnée Achish. Les Amalécites l'ont dévastée en emmenant leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et tous de crier et de pleurer. Et David était en grande détresse, comme dit le chapitre 37-30 du premier livre de Samuel, car les gens parlaient de le lapider. Tous avaient en effet l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David retrouvera courage dans le Seigneur, son Dieu. Dans l'angoisse, il s'en remet à Dieu et puise dans sa confiance en lui la force de tenir face à une catastrophe dont ses hommes veulent le rendre responsable. On comprend que la plupart des psaumes aient été attribués au chantre par excellence de l'amitié divine qu'est David. Tout lui est un motif de se tenir très près de son Dieu, même ses fautes. Et par l'intermédiaire du prêtre Abiathar, habilité à dire la volonté de Dieu, David consulte le Seigneur qui, contrairement à Saül, lui répond. Donc Dieu répond à David par l'intermédiaire du prêtre Abiathar. Donc Dieu nous donne des intermédiaires à partir de qui nous pouvons le consulter. Avec la faveur divine, David réussit à rattraper les Amalécites et à retrouver femme, fils et fille. Et Saül va être moins heureux à la bataille qui s'annonce à Gelboé, conformément à la prédiction de Samuel. Et c'est à l'occasion, en effet, de sa victoire héroïque sur Goliath que David a fait la connaissance, le même jour, de Saül, le roi, et de son fils Jonathan, le prince. Jonathan, ça veut dire Dieu donné, donné par Dieu. L'un et l'autre, chacun à sa façon, se sont attachés à lui, et le roi et son fils. Cependant, très vite, les succès de bravoure et la renommée du jeune guerrier atteignent dans sa fierté le roi ombrageux. Saül a été rejeté par Dieu en raison de sa désobéissance et de sa faiblesse. Samuel a répandu l'onction royale sur David, mais ce choix n'est pas encore public. Aux yeux du peuple, Saül reste le roi. Il se met à traquer son rival tout en ayant l'intuition qu'il sera pour lui-même un successeur plus à la hauteur de la charge royale.